Charles et Mary Lamb, conte tiré de Shakespeare, As You Like It ou Comme il vous plaira. Au temps où la France était divisée en provinces ou duchés, régnait sur l'un de ces territoires l'usurpateur Frédéric qui avait déposé et banni son frère aîné. Celui-ci s'était retiré dans la forêt des Ardennes et là menait avec quelques fidèles compagnons de son exil une existence si paisible et si exempte de soucis qu'elle avait fini par lui paraître plus agréable que la vie pompeuse mais toujours troublée de la cour. Semblable au célèbre Robin Hood d'Angleterre dans sa forêt de Sherwood, il vivait comme les heureux de l'âge d'or, du produit de sa chasse et de l'eau limpide des ruisseaux. Mollement étendu à l'ombre épaisse des arbres séculaires, la troupe joyeuse surveillait pendant l'été les gracieux ébats des biches et des faons, qu'elle appelait les citoyens naturels de ces bois immenses, regrettant que les nécessités de la vie l'obligeassent à tuer de temps à autre quelqu'une de ces gracieuses bêtes à la robe si élégamment tachetée de fauve. Et quand les longues et tristes journées de l'hiver venaient rappeler plus rudement au duc les splendeurs et le confort qu'il avait perdus, loin de témoigner aucune aigreur contre la mauvaise fortune, il avait coutume de dire « Ces bises glacées sont des conseillers qui ne savent ni flatter ni mentir. Ils m'empêchent d'oublier à quoi m'a réduit la perversité humaine, et bien que ces froids piquants me pénètrent jusqu'au moelle, je les préfère aux cruelles morsures de la méchanceté et de l'ingratitude. L'homme ne parle guère qu'avec amertume de l'adversité, et cependant le sage en peut extraire d'utiles enseignements, comme tous les médecins tirent de la tête venimeuse du crapaud qu'ils méprisent, de précieux remèdes pour leurs malades. » Ainsi parlait l'excellent vieillard. Sa douce et vivifiante philosophie consolait ses jeunes compagnons, à qui il apprenait à trouver, loin des vanités de la vie sociale, une voix dans les grands arbres, des livres dans les ruisseaux babillards, des sermons dans les pierres, le beau et le bien partout. Célia, la fille de Frédéric, avait gardé auprès d'elle la belle Rosalinde, fille unique de l'exilé. Elle faisait tout ce qui était en son pouvoir pour réparer, à l'égard de cette charmante enfant, les torts de son père envers le duc légitime et pour la consoler dans ses accès de tristesse ou de mélancolie. Un jour que les deux cousines devisaient gaiement ensemble, un messager vint les prévenir qu'un assaut devant avoir lieu entre deux lutteurs sur la place publique qui avoisinait le palais, Frédéric les invitait à y assister. Célia, trop heureuse de procurer à Rosalinde quelques divertissements, se rendit avec elle à l'endroit désigné. En ce temps-là, les exercices de la lutte, abandonnés aujourd'hui aux Hercules forains, étaient le divertissement favori des princes qui s'y livraient sous les yeux des princesses et des dames de la cour. Cette fois, l'issue de la joute paraissait devoir être tragique. L'un des deux combattants était un athlète très expérimenté dans son art, qui, en maint combat singulier de ce genre, avait tué son adversaire. L'autre était un tout jeune homme qui semblait fort novice, et devait inévitablement succomber sous les coups terribles qu'il ne manquerait pas de recevoir. « Je regrette, dit Frédéric aux jeunes filles, dès qu'il les aperçut, de vous avoir fait dire de venir ici. Ces deux lutteurs sont de force si inégales que je vous serais reconnaissant de prier le plus jeune de renoncer à une rencontre qui ne peut que mal finir pour lui. Allez lui parler, enfant, et voyez si vous ne pourriez pas ébranler sa résolution. » Cette mission toute d'humanité sourit aux deux princesses. Célia essaya la première le pouvoir de son éloquence, mais en vain. Et quand ce fut le tour de Rosalinde, elle parla avec tant de sentiment et d'éloquence des suites funestes d'un pareil engagement, que le jeune homme, surexcité sans doute, par l'éclat des beaux yeux de la suppliante, sentit se décupler son courage et ne songea plus qu'à se distinguer et à vaincre. « Je suis désolé, dit-il en s'inclinant avec toute la grâce et la modestie d'une jouvencelle, de refuser quoi que ce soit à d'aussi généreuses personnes. Mais soutenez-moi de vos regards et de vos bons souhaits. Si je suis vaincu, je serai puni par ma honte d'avoir été si peu galant. Si je suis tué, sachez par avance, noble demoiselle, que la mort pour moi sera la bienvenue. Je ne ferai tort en mourant ni à mes amis, car je n'en ai pas, ni au monde que je quitterai, car je n'y possède rien. Et la pauvre petite place que j'y occupe sera mieux remplie quand je l'aurai cédée à un autre. devant tant de résolution et de mélancolique philosophie, les jeunes filles ne purent que se taire et le combat commença. Célia fit des vœux pour que le courageux étranger sortît de l'épreuve sain et sauf. Mais Rosalinde alla plus loin dans ses désirs. Avec son instinct de déshéritée, elle avait deviné dans ce jeune homme si résigné à mourir, un compagnon d'infortune, et la pitié chez elle se mêla tellement à un sentiment de confraternité et de mystérieuse sympathie qu'on peut dire sans se tromper qu'elle l'aima dès la première apparence du danger. Mais lui, il fit des merveilles de force et de courage. L'Hercule fut vaincu et si maltraité qu'il pouvait à peine parler et se mouvoir. Surpris en même temps que charmé d'un dénouement aussi inattendu, Frédéric voulut savoir le nom du jeune palestrite, se promettant bien déjà de l'attacher à sa cour. « Mon nom est Orlando, répondit le vainqueur, et je suis le plus jeune fils de feu le chevalier Roland de Bois. » « Roland de Bois !» s'écria l'usurpateur, « l'ami le plus dévoué du duc, mon frère. J'aurais préféré, brave comme tu l'es, que tu fusses le fils d'un tout autre homme. » Et lui tournant le dos, il quitta la place de fort mauvaise humeur. Il en fut tout autrement pour Rosalinde. « Quel bonheur, dit-elle à Célia, que ce vaillant lutteur soit le fils de l'un des plus dévoués amis de mon malheureux père. Oh, si je l'avais su avant le combat, c'est avec larmes que je l'eusse supplié de ne pas risquer son existence. Vois comme la brusque disparition de ton père l'a chagriné. N'irons-nous pas le consoler un peu ?»« Certes, répondit la fille de Frédéric. Brave jeune homme, dit Rosalinde, quand elles eurent rejoint Orlando, combien je me sens malheureuse d'être moi-même aux prises avec l'adversité. J'aurais désiré faire au fils du chevalier Roland de Bois un présent digne de lui. Mais je ne possède que ce collier d'or. Acceptez-le, je vous en prie, et portez-le pour me faire plaisir. » Célia ne put s'empêcher de trouver que son amie était bien prompte à s'enthousiasmer. « Serait-il possible, lui dit-elle quand elles furent seules, que tu aimasses déjà ce jeune homme ?»« Le duc, mon père, répondit doucement Rosalinde, aimait le sien tendrement. » « La belle raison, riposta Célia. Alors je devrais le haïr, moi, car mon père haïssait le sien cordialement. Et cependant, je ne le hais point. » « Je ne puis tolérer de pareils discours, » dit tout à coup Frédéric, qui entrait en ce moment dans la chambre où se trouvaient les jeunes filles et qui avait tout entendu. « Aujourd'hui même, Rosalinde quittera ce palais et ira rejoindre son père en exil. »« Oh, père !» s'écria Célia, « vous ne voudrez pas me priver ainsi de ma compagne d'enfance. »« Je n'ai toléré ici sa présence que pour l'amour de toi, » répondit Frédéric. « Oui, mais j'étais trop jeune alors pour apprécier son excellent cœur. Aujourd'hui que je la connais comme je me connais moi-même, après tant d'années d'une existence où nous avons tout mis en commun, nos études, nos jeux et nos prières, je sens que je ne pourrai plus vivre sans elle. » « Vous êtes une sotte, Célia !» cria Frédéric, furieux de cette résistance à ses ordres. « Vous ne voyez même pas que cette fille vous fait tort auprès de mon peuple, par sa prétendue résignation, par sa douceur et son silence adroitement calculés pour exciter la sympathie et la pitié. Pas un mot de plus en sa faveur, ajouta-t-il, lorsqu'il vit que Célia allait le supplier à nouveau. Elle partira. Ma décision est irrévocable. Je l'accompagnerai donc dans son exil, se dit la généreuse Célia. Dès que Frédéric les eut quittés, les deux amis concertèrent un plan d'évasion pour la nuit même et décidèrent d'aller retrouver le vieux duc dans la forêt des Ardennes. Mais elles réfléchirent que c'était une entreprise bien hasardeuse pour des jeunes filles de leur qualité. Et non seulement elles quittèrent leurs riches atours, mais Rosalinde, dont la taille était plus élevée et l'apparence plus robuste, résolut de se déguiser en campagnard et de se faire passer sous le nom de Ganymède pour le frère de Célia, qui s'appellerait désormais Aliéna. La nuit venue et leur escarcelle bien garnie, elles se mirent en route pour la lointaine forêt qui s'étendait bien au-delà des frontières du duché de Frédéric. Avec son costume d'homme, Rosalinde de Ganymède semblait avoir revêtu l'aplomb et le courage du sexe fort. Prenant au sérieux son rôle de frère, elle se montra pleine de bonne humeur et d'attention délicate afin de faire paraître moins rude à sa compagne les fatigues de la route. Mais une fois dans la vaste forêt, Nos voyageurs ne trouvèrent plus d'auberge pour s'y restaurer et y reposer leurs membres brisés par une longue marche. Alors, en dépit qu'il en eût, Ganymède sentit sa gaieté s'évanouir. Il ne trouvait plus la force de deviser de choses charmantes et de chanter d'alertes chansons. « Ma pauvre Aliéna, dit-il enfin, je suis si exténué qu'il me semble que je fais affront à mon extérieur d'homme et que je vais pleurer comme une simple femme. Et moi, je ne puis aller plus loin, soupira Aliéna. Allons, petite sœur, repartit Ganymède, en faisant sur lui-même un effort surhumain, encore un peu de courage. La fin de notre dur pèlerinage ne peut être bien éloignée, et nous ne tarderons pas à retrouver mon père. » C'était là pure fanfaronnade, car il ne savait, ni l'un ni l'autre, en quelle partie de la forêt des Ardennes se trouvait le duc, et rien ne prouvait qu'il ne s'égarerait pas dans cette ombreuse mais immense solitude, au grand danger d'y périr de faim, bien que leurs escarcelles fussent pleines d'or et de bijoux précieux. Heureusement, comme il se lamentait, tristement assis sur un banc de gazon, vint à passer un paysan. « Berger, lui dit Ganymède, à qui la hardiesse revint tout à coup, conduis-nous où ma jeune sœur et moi, nous pourrons nous reposer et prendre quelque nourriture, et tu seras récompensé royalement de ta peine. » « Je ne suis que le serviteur d'un berger, répondit le passant, et comme mon maître va vendre sa maison, vous y trouverez sans doute pauvre chère. Mais si vous voulez vous contenter de ce qu'il y aura, soyez les bienvenus. Je vais vous montrer le chemin. » Arrivés à la maison du berger, Ganymède et Aliéna la lui achetèrent ainsi que ses troupeaux et gardèrent pour leur propre service l'homme qui les avait si providentiellement sauvés. Et se voyant dès lors abondamment pourvus de toutes les nécessités de la vie, ils résolurent d'attendre patiemment que quelque heureux hasard leur apprît où était le vieux duc. Ils s'habituèrent si bien à leur nouveau genre d'existence qu'ils en vinrent à se persuader qu'ils étaient réellement bergers et bergères. Mais sous la bure qui recouvrait Ganymède, battait toujours le cœur de la tendre Rosalinde. Et elle regrettait souvent que le brave Orlando fût si loin d'elle, quand elle eût pu vivre heureuse avec lui, sous l'humble chaume de la maisonnette qui l'abritait, elle et sa chère Aliéna. Or, à ce moment même, Orlando, lui aussi, se trouvait dans la forêt des Ardennes, plus avancé même que nos deux voyageurs, car il y avait rencontré le vieux duc. Voici comment. Le chevalier Roland de Bois avait, en mourant, confié à son fils aîné Oliver l'éducation et le bien-être du jeune Orlando. Mais la bonne mine, l'esprit naturel et les éminentes qualités de cœur de cet enfant n'avaient pas tardé à remplir de jalousie le cœur de ce Caïn qui, pour se débarrasser de son appel, lui avait persuadé de défier en combat singulier l'Hercule que nous l'avons vu vaincre plus haut. À la nouvelle de ce triomphe inattendu, Oliver entra dans des transports de fureur. « Il faut que cet enfant de malheur disparaisse coûte que coûte, » s'écria-t-il alors qu'il se croyait seul. « Je le ferai brûler vif pendant son sommeil. » Mais ce propos sauvage avait été entendu d'un vieux serviteur de sa famille, nommé Adam, qui adorait Orlando parce que, disait-il, il retrouvait dans ce noble jeune homme toutes les qualités du chevalier Roland. « Oh, mon gentil et doux maître !» s'écria le bon vieillard, quand il aperçut Orlando revenant du palais de Frédéric. « Oh, portrait vivant d'un père vénéré ! Pourquoi faut-il que vous soyez si aimable, si fort, si vaillant, et que vous ayez vaincu ce fameux lutteur ? La renommée de vos exploits a eu grand tort de vous précéder ici. « Que veux-tu dire, mon brave serviteur ? Interrompit Orlando. « Que vous êtes un homme mort si vous retournez sous le même toit que votre frère. Il a juré de se venger de votre gloire en mettant lui-même le feu à votre lit pendant votre sommeil. » « Tu calomnies, Oliver, vieillard !» exclama le jeune athlète. « Plût au ciel qu'il en fût ainsi, mais je l'ai entendu de mes propres oreilles faire l'affreux serment de vous brûler vif. Croyez-moi, fuyez au plus vite. J'ai là 500 couronnes, ajouta le généreux vieillard, le fruit de mes économies du vivant de votre père. Prenez-les. Je les conservais pour le temps où mes pauvres vieilles jambes me refuseraient leur service. mais celui qui donne leur pâture aux corbeaux se chargera de ma vieillesse. » « Je ne puis accepter un pareil sacrifice, » dit Orlando tout ému. « Sacrifice, » répliqua Adam, « mais c'est moi qui serai votre obligé, mon bien-aimé maître, car je vous suivrai partout et vous me nourrirez. Je n'ai plus la vigueur de mes 20 ans, mais je puis vous servir encore et vous protéger au besoin. » « Excellent vieillard, » s'écria Orlando, « tu es bien le plus admirable type des serviteurs du bon vieux temps. J'accepte donc ton dévouement, si peu en harmonie, avec l'égoïsme de notre époque. Allons ensemble, droit devant nous, et la Providence trouvera bien le moyen de me mettre à même de te récompenser un jour. » La Providence, en effet, les conduisit à la forêt des Ardennes. Mais là, ils tombèrent bientôt dans la même détresse dont Ganymède et Aliéna avaient failli être victimes. Perdus, mourant de faim et de fatigue, ils marchèrent sans relâche jusqu'à ce qu'enfin le pauvre Adam, épuisé, se laissa tomber sur la route et pria son jeune maître de l'y laisser mourir. Orlando, malgré sa faiblesse, le saisit dans ses bras, le porta à l'ombre d'un chêne, le déposa tendrement sur le gazon, et après l'avoir réconforté par quelques mots de chaude amitié, le quitta pour aller chercher quelque nourriture. Sa bonne étoile l'amena précisément à l'endroit où le duc exilé prenait son repas avec ses fidèles chevaliers, n'ayant pour tout trône que la mousse de la forêt et d'autres dais ducales que le dôme agreste des grands arbres. « Arrêtez !» leur cria tout à coup Orlando, affolé par la faim et la soif, « une bouchée de plus et vous êtes morts !» Et il se précipitait déjà l'épée à la main, quand le duc lui demanda froidement quel démon le poussait ainsi à se conduire en homme mal élevé. « Le démon de la faim !» répliqua Orlando, soudainement calmé par tant de sang-froid. « Point n'est besoin, » continua le duc, « de vous déguiser pour cela en brigand. Prenez place avec nous et mangez. »« Pardonnez-moi, » dit Orlando, tout honteux de son emportement, et étonné de paroles si courtoises, « je me croyais ici en plein pays sauvage. De là ma rude et inconvenante apostrophe. » Mais qui que vous soyez, vous qui, dans ce lieu désert, à l'ombre de ces êtres mélancoliques, semblez oublier la sournoise fuite des heures, si vous avez jamais vu des jours plus fortunés, si jamais les cloches saintes vous appelèrent au temple, si jamais homme généreux vous fit asseoir à son banquet, si vous essuyâtes jamais un pleur roulant sur vos joues attristées, si vous savez enfin ce que c'est que d'exciter la pitié ou de la ressentir, laissez-vous toucher en ce moment et montrez-vous humain et gracieux envers un infortuné. « Qu'il soit fait ainsi que tu le désires, jeune homme, » dit le duc, « car nous sommes tout ce que tu viens de dire, et nous avons, comme toi, senti sur nos épaules la lourde main de l'infortune. »« Ce n'est pas pour moi, » reprit le fils du chevalier Roland, « que je plaide avec tant de chaleur. J'ai laissé, non loin d'ici, mourant de faim et de fatigue, un vieillard qui n'a pas hésité à me suivre de son pas tremblant. » Tant qu'il n'aura pas apaisé son appétit, je ne toucherai à aucun des mets que vous m'offrez si généreusement. « Va le chercher, mon enfant, » dit le duc avec bonté. « Nous suspendrons notre repas jusqu'à ton retour. » Orlando partit avec la légèreté d'une biche qui a trouvé pour son faon quelque délicate nourriture et reparut bientôt, portant dans ses bras nerveux, le vénérable serviteur. « Dépose ton précieux fardeau, » lui dit le duc, et soyez tous deux les bienvenus. » Ce fut à qui donnerait au brave Adam ce qu'il désirait. On le traita si bien que la joie et l'espérance revinrent au cœur du vieillard, avec des forces et une santé toutes nouvelles. Quand le duc apprit plus tard qu'Orlando était le fils de son fidèle Roland, son affection pour le jeune homme et pour son vieux serviteur ne firent que s'accroître, et il voulut qu'ils fissent désormais partie de sa cour d'exilés. Ganymède et Aliéna ne furent pas peu étonnés un jour, quand ils aperçurent, au cours d'une excursion dans la forêt, que plusieurs arbres portaient gravés sur leur écorce ou suspendus à leurs branches le nom de Rosalinde et des sonnets en son honneur. Et comme ils s'émerveillaient entre eux d'une aussi bizarre occurrence, voilà qu'ils aperçurent Orlando et le reconnurent aussitôt au collier d'or, présent de Rosalinde, qu'il portait à son cou. « Je voudrais bien savoir, » dit Ganymède, en adressant assez brusquement la parole au fils de Roland, « quel est le jeune fou qui s'en va à travers notre forêt, gâtant nos arbres, où il grave le nom d'une certaine Rosalind, sans plus de pitié d'ailleurs pour nos aubépines et nos clématites, auxquelles il suspend force sonnet et élégie. Si je le rencontrais, je lui donnerais un conseil qui le guérirait vite de sa ridicule passion. « J'attends donc ce conseil, » répliqua Orlando, qui ne put s'empêcher de trouver à son hardi interlocuteur quelque frappante ressemblance avec l'objet de son amour. « Je suis le jeune fou dont vous me faites l'honneur de vous plaindre. »« Vraiment ?» dit Ganymède. « Eh bien, mon avis est que vous veniez chaque jour dans la maisonnette où je vis avec ma sœur Aliéna. Là, je ferai semblant d'être Rosalind, et vous me ferez la cour comme vous la lui feriez à elle-même. » Je vous donnerai alors un échantillon des fantaisies qui passent par la tête des belles dames, et si vous n'êtes pas guéri en moins d'une semaine, c'est que vous y mettez de la mauvaise volonté. « Singulier remède, » fit Orlando. « J'en essaierai, cependant. » Et chaque jour, en effet, il visita Ganymède et Aliéna au grand amusement de celle-ci, qui se divertissait fort d'entendre toutes les délicieuses niaiseries que se débitaient les deux jeunes hommes. Ganymède ne se sentait pas moins joyeux de se voir si réellement aimé sous le couvert de son nom d'emprunt. Mais Orlando ne se guérissait pas de ce qu'il appelait sa folle passion. Bien au contraire. Le moment vint, cependant, où Aliéna reprocha à son prétendu frère de n'avoir pas été voir le duc, car il savait par Orlando où le trouver maintenant. Ganymède convint de son tort et le lendemain se présenta devant son père, qui fut loin de soupçonner qu'il avait devant les yeux sa bien-aimée Rosalinde. « Qui es-tu, jeune berger ? » lui dit le vieux seigneur. « Je suis d'aussi noble naissance que vous-même, » répondit Ganymède. Le duc sourit de cette audacieuse répartie, mais n'en demanda pas davantage ce jour-là. Un matin qu'Orlando se rendait à la maisonnette de Ganymède, il aperçut au pied d'un arbre un dormeur qu'un long serpent vert se préparait à enlacer de ses anneaux. À la vue du jeune homme, le hideux reptile abandonna la proie qu'il convoitait et disparut en rampant sous les broussailles. Orlando se félicitait déjà d'avoir préservé cet inconnu d'une mort certaine et s'approchait de lui pour le tirer de son sommeil, quand il vit briller à quelques pas de là les yeux d'une lionne qui, le museau à terre, et tapie comme une chatte aux aguets, n'attendait que le réveil de l'imprudent dormeur pour bondir sur lui et le dévorer. « Grand Dieu !» fit sourdement le fils de Roland de Bois, « c'est Oliver, mon frère, qui dort là. » Un moment, le souvenir de la cruauté d'Oliver le troubla et souleva dans son cœur une si violente colère qu'il résolut de laisser à la merci de la lionne affamée l'homme qui avait médité de le faire brûler vif. Mais cette horrible pensée se fondit bientôt sous les rayons de sa généreuse nature, et, tirant son épée, il se rua sur la lionne et la perça de part en part, non sans qu'elle lui eût, toutefois, déchiré le bras droit de ses griffes puissantes. « Que la honte et le remords m'étouffent !» s'écria Oliver, que les furieux rugissements de la brute blessée à mort avaient fait bondir sur ses pieds. « Est-ce bien toi, Orlando, toi que j'ai si maltraité, qui me sauve la vie, alors que je te cherchais ici pour te tuer ?»« C'est moi, » dit Orlando, « et je te pardonne, Oliver. » Les deux frères tombèrent dans les bras l'un de l'autre et s'embrassèrent avec effusion. « Frère, » continua Orlando, « je me sens trop épuisé pour me rendre chez un jeune berger que j'appelle en riant ma Rosalinde. Sois assez bon pour y aller toi-même et raconte-lui l'accident qui m'est arrivé. » Oliver obéit et trouva Ganymède et Aliéna fort inquiets de n'avoir pas encore vu Orlando. « Je suis son frère, » leur dit Oliver, « le frère qu'il a si indignement poursuivi de sa haine. Mais aujourd'hui, je donnerai pour lui la dernière goutte de mon sang, car il a versé le sien pour me sauver des griffes et des dents d'une lionne qui lui a mis le bras droit en lambeaux. » Ganymède poussa un cri de terreur et s'évanouit. « Ce n'est rien, » dit-il à Oliver, qui le relevait avec attendrissement. « Dites à votre frère, comme le jeune berger qui contrefait sa Rosalinde, a su contrefaire aussi à ravir l'évanouissement d'une femme. « Vous êtes bel et bien tombé en pâmoison, jeune homme, » répliqua Oliver en voyant la mortelle pâleur qui recouvrait encore les joues du prétendu berger. « Mais en supposant que vous soyez si bon imitateur, vous feriez bien d'imiter un peu le courage des hommes. » Vous avez raison, fit Ganymède en souriant. Je crois qu'en réalité, je ne suis qu'une faible femme. La visite d'Oliver fut longue, si longue en vérité, qu'Aliéna eut tout le temps d'apprendre à aimer d'amour ce frère coupable, maintenant si repentant et si éloquent, à exprimer son repentir, qu'il en semblait tout transfiguré. De son côté, Oliver n'avait pu s'empêcher de s'y prendre de la belle Aliéna, dont la profonde sympathie pour sa soudaine et sincère conversion lui avait été droit au cœur. Quand il fut de retour auprès d'Orlando et lui eut raconté l'évanouissement de Ganymède, il s'écria avec enthousiasme « La sœur de ce jeune berger est une merveille de beauté et de bonté. Orlando, je veux l'épouser, vivre près d'elle comme un simple berger et te laisser tous mes biens. » « Que ce mariage se fasse donc demain, » dit Orlando. « J'y inviterai le duc et ses amis. Va de ce pas persuader ta bergère d'y donner son consentement. Le moment est favorable et tu la trouveras seule, car j'aperçois Ganymède qui vient de ce côté. » Oliver partit et Ganymède courut auprès d'Orlando. « Vous n'êtes pas si cruellement blessé que le disait votre frère, n'est-ce pas ? » s'écria le jeune berger, encore pâle d'émotion et d'anxiété. « Non, mon ami, » répondit le fils préféré du chevalier Roland, « et je donnerai le bras qui me reste intact pour pouvoir demain épouser ma chère Rosalinde comme Oliver épousera son Aliéna. » « Qui vous en empêche ? » répliqua Ganymède au grand étonnement d'Orlando. « Je tiens d'un de mes oncles, très versé dans les sciences occultes, le moyen de faire apparaître demain votre Rosalinde dans ma propre personne. » Et si vous l'aimez comme vous le dites, elle ne demandera pas mieux que de vous épouser. « Ne te moque pas ainsi de ton ami, jeune berger, » exclama Orlando. « Que t'ai-je donc fait pour que tu me prennes pour un insensé ? » ?»« Parez-vous néanmoins de vos plus riches vêtements, » répliqua simplement Ganymède, « et invitez à votre mariage le duc et ses amis. Rosalinde sera ici demain à l'heure dite. » Et il laissa Orlando, ne sachant que penser de cette singulière aventure. Le lendemain matin, Oliver, Aliéna et Orlando étaient en présence du duc et de ses fidèles compagnons et attendaient avec d'autant plus d'anxiété ce qu'il adviendrait de l'étonnante promesse du jeune berger que le duc se refusait à croire que Rosalinde, sa fille, fut, en ce moment, dans la forêt des Ardennes. « Duc, » dit Ganymède, qui parut tout à coup devant la noble assemblée, « si je vous amenais tout à l'heure votre fille, consentiriez-vous à son mariage avec Orlando ?»« De grand cœur, » répondit l'auguste exilé, « même si j'avais des royaumes à lui donner en dot. »« Et vous, Orlando, » continua le berger, « l'épouseriez-vous si je la conduisais en ces lieux ?»« À l'instant, » s'écria le jeune homme avec feu, « même si j'étais roi de l'univers. » Ganymède et Aliéna s'éloignèrent, mais pour reparaître bientôt, et sans l'aide d'un magicien, sous leurs riches vêtements de princesse. « Père, bénissez-moi, » dit Rosalinde, en pliant le genou devant le duc, aussi stupéfait que les autres spectateurs de cette métamorphose, dont tout le mystère fut bientôt expliqué. Le double mariage venait à peine d'être célébré sous le vaste dôme de verdure, qu'un messager arriva, apportant au duc une étrange nouvelle. L'usurpateur, son frère, furieux de la disparition de sa fille Célia, s'était mis à la tête de son armée et avait envahi la forêt des Ardennes, où il avait appris que, chaque jour, la cour du duc se grossissait de nouveaux admirateurs de ses vertus et de sa résignation. Mais au moment où Frédéric, roulant dans son cœur les plus atroces projets de vengeance, s'engageait sous les arceaux touffus de la forêt, un vénérable ermite s'était tout à coup présenté devant lui et l'avait si instamment prié de renoncer à ses criminels desseins que le repentir s'était emparé de son cœur et l'avait transformé au point de le décider à rendre à son frère le duché qu'il lui avait ravi et à passer le reste de sa vie dans un monastère. Son premier acte de réparation avait été de dépêcher au duc un courrier chargé de lui annoncer qu'il pouvait rentrer dans toutes ses possessions aussi bien que ses compagnons d'exil. Un changement si complet et si inattendu dans la fortune de Célia et de Rosalinde n'altéra en rien la joie des deux princesses, encore moins la tendre et sincère amitié qu'elle s'était vouée dès leur enfance. Et le duc put enfin récompenser, comme il le méritait, les fidèles serviteurs qu'il avait suivis dans ses jours d'infortune et les faire rentrer avec lui dans une ère nouvelle de prospérité et de paix.